Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, si j'ose dire, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021. On espère qu'elle sera meilleure que celle qui se termine. Et puis, on espère surtout vous retrouver très bientôt dans cet amphithéâtre où d'habitude vous faites la queue pour entrer. J'espère que ce sera très vite. Alors, La prochaine conférence sera mardi 2 février à 19h30. Nous ne sommes pas absolument sûrs encore du nom de l'orateur ou de l'oratrice, donc ça vous sera communiqué dans quelques jours sur la page internet des conférences publiques de l'IAP. Donc voilà, vous pourrez regarder dans quelques jours, au plus tard, au début de la semaine prochaine, la conférence du mois prochain sera annoncée. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir François Boucher, qui nous fait l'honneur de venir alors qu'il doit crouler sous le travail parce que depuis le 1er janvier, c'est le nouveau directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc nous lui en sommes doublement reconnaissants. Donc François, je le connais depuis très longtemps, je ne sais pas combien, mais vous allez deviner. Il a fait sa thèse au Centre de physique théorique de l'École polytechnique avec René Pellat sur la physique des fluctuations primordiales et la formation des galaxies. Et comme il me disait tout à l'heure, il n'a pas dévié pratiquement de son sujet initial, ce qui est quand même assez rare. Mais par contre, il a quand même fait beaucoup de choses là-dessus. Après sa thèse, il est parti aux États-Unis, à plusieurs endroits, à Berkeley, à Santa Barbara, à Princeton, où il a développé un modèle de corde cosmique qui est à peu près la seule théorie alternative à l'inflation, en tout cas qu'il était à l'époque, je ne suis pas spécialiste. Il a aussi travaillé pour accompagner le développement de la cosmologie physique et l'origine, l'évolution, la caractérisation des structures de l'univers. Ça a été aussi l'initiateur en France des simulations de grandes structures, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas encore en France. Et depuis 1992, il a participé à la proposition du satellite Planck, puis à l'élaboration, au cahier des charges, à l'exploitation scientifique, il a été quelqu'un d'extrêmement important sur le satellite Planck. Il est à l'IAP, il a été d'abord associé depuis 1984 et puis ensuite de retour des États-Unis vers 1990, il s'est installé à l'IAP, donc c'est un peu sa maison. Et il a reçu de nombreux prix, parmi lesquels je citerai simplement le prix Louis D de la Fondation de France. Et puis un prix collectif aussi, le prix Gruber, qui a été donné pour la belle réussite et les résultats scientifiques magnifiques du satellite Planck. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de la cosmologie, bien sûr. Aujourd'hui, réponses et questions, parce que forcément, quand on trouve des réponses, il y a d'autres questions qui naissent. Donc, merci François.
Bonsoir, c'est un plaisir de revenir d'abord dans cet amphithéâtre où j'ai parlé de nombreuses fois, mais aussi au Mardi de l'IAP, où la dernière fois que j'ai dû parler ici, dans ce contexte-là, ça devait être en 2002. Donc avant les résultats de Planck, de loin. Alors, je vais essayer cette présentation aurait pu s'appeler de la mousse quantique à l'éponge cosmique. Et mon propos de ce soir est un peu de vous donner les clés pour comprendre ce diagramme qui est en fait tout l'univers observable représenté sous une forme d'un oignon. Et j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une petite idée de pourquoi on pense l'univers de cette manière-là et qu'est-ce que ça veut dire ces différentes coquilles. Et donc ceci va nous amener... Alors, je ne sais pas si je peux utiliser... Oui, ceci va nous amener depuis le centre, c'est-à-dire là où nous sommes ici et maintenant, disons, proche de la Terre, au centre proche de notre galaxie, et nous emmener jusqu'aux confins, à la fois de l'espace et du temps, sur un voyage qui est, en gros, tout l'âge de l'univers. Alors, les questions cosmologiques sont très, 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 très anciennes, et j'en ai cité quelques-unes, c'est certainement pas exhaustif. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de vous apporter les réponses d'aujourd'hui à ces questions très anciennes, notamment sur quels sont les constituants de l'univers, et quelles sont leurs propriétés physiques, comment l'univers s'organise-t-il, quelle est son histoire, et comment sont apparues finalement les structures que je vais vous décrire d'ici quelques instants, qu'on y observe. Et puis, bon, on peut aussi essayer d'en déduire quelle pourrait en être l'ultime destinée. Alors, quand on regarde, c'est une image en fait un peu synthétique, mais quand on positionne sur la voûte céleste l'image des galaxies, voilà en gros ce qu'on observe, c'est le résultat d'un relevé qui s'appelle TUMAS, et chaque galaxie, chaque point là correspond à une galaxie, à part l'espèce de nuage, l'espèce de brume, alors est-ce que j'arrive à voir, cette espèce de brume, ça c'est le centre galactique, ceci est le plan galactique. Vous y voyez un peu de poussière, des étoiles qui ne sont pas résolues. Et tout le reste, eh bien, c'est en dehors de notre galaxie. Ce sont d'autres galaxies, un peu comme la nôtre, avec des couleurs qui dépendent un petit peu de la distance. Mais ça, c'est une vision qui est... En fait, on n'a pas de notion de la distance. Et pour ça, fort heureusement, il s'avère que... avant que je continue, quand même, j'allais oublier. Vous allez voir des ovales, très souvent. Cet ovale est en fait simplement la projection... de la sphère céleste sur un plan avec les déformations qui sont incontournables. Et comme ça, vous avez pu reconnaître, par exemple, un objet familier, comment il apparaît sur une telle représentation. Alors, on sait depuis déjà un certain nombre d'années que l'univers est en expansion, et c'est l'expansion de l'espace lui-même. Et donc, tous les objets s'éloignent les uns des autres, et ça a pour conséquence que la lumière émise dans le passé est décalée vers le rouge au fur et à mesure de sa propagation. Et donc, ceci va nous donner une indication, et vous pouvez concevoir que plus les objets sont distants à un moment donné, et plus le décalage vers le rouge de la lumière sera important. Alors ça, c'est merveilleux parce que ça donne aux astronomes un moyen de positionner les objets dans la troisième dimension. En fait, c'est la loi dite de Lemaître Hubble qui a montré qu'au moins quand les objets ne sont pas trop loin, la vitesse de récession... et donc le décalage vers le rouge, est proportionnel à la distance avec une constante de proportionnalité qu'on appelle H comme constante de Hubble, équivaut de l'ordre de 60 km par seconde et par mégaparsec. Alors, en 1919, il fallait avoir un certain culot pour en tirer une loi linéaire. Là, c'est ici, là, vous voyez la distance sur laquelle on était capable de mesurer cette échelle, c'était de l'ordre de 2 mégaparsec, et les points étaient quand même passablement dispersés. Mais en 2003, on voit que cette fois, les distances... sont de l'ordre de 500 mégaparsecs et que c'est une loi qui est très très bien vérifiée dans cette échelle de distance. Alors ça c'est bien, donc, parce qu'en pratique, on peut essayer de repérer dans la lumière d'une galaxie qu'on va disperser à l'aide d'un spectrographe, on va pouvoir essayer de repérer des raies d'émission caractéristiques, par exemple du calcium enfin, ou autre, et on va pouvoir regarder le décalage vers le rouge, ou vers le bleu si jamais elle se rapprochait de nous, de ces raies caractéristiques par rapport au laboratoire. Et à partir de là, en utilisant la loi de Hubble, eh bien, d'une certaine manière, on est capable de positionner les objets dans la troisième dimension. Du coup, l'univers va se révéler à nous de manière tout à fait remarquable. Et voici, par exemple, alors cette fois, c'est une tranche. Là, on n'est plus du tout dans le plan du ciel. Vous êtes toujours au centre, ici et maintenant. Mais maintenant, vous imaginez un feuillet très mince, dans lequel on a compté toutes les galaxies, on les a positionnées en fonction de la distance. Et ce qu'on voit apparaître, alors on appelle ça les grandes structures de l'univers, on voit apparaître des agglutinations, des amas de galaxies. Alors il y a des endroits où il y en a beaucoup. Est-ce que j'arrive à mettre mon curseur? Oui, par exemple, là. Mais vous voyez aussi des structures filamentaires, vous voyez aussi des endroits qui sont sous-denses, qui ont l'air d'être totalement vides de galaxies. Collectivement, alors, et après ça, si on... On a fait ça dans un certain nombre de feuillets. Pour le moment, on n'a pas cartographié toute la sphère autour de nous parce que ça demande énormément de temps de télescope. Et on a préféré essayer d'aller voir très loin ce qui se passe. Alors, je reviens donc à l'échelle précédente. Donc, vous pouvez imaginer que finalement, cette structure-là, en fait... elle se caractérise, d'un point de vue même topologique, comme l'ossature d'une éponge. C'est-à-dire qu'on peut rester dans les régions sous-denses, vides, On peut aller d'un bout à l'autre de l'univers, mais on peut aussi le faire en choisissant les régions denses et la partie l'ossature de l'éponge. C'est typiquement c'est une caractéristique intrinsèque de cette distribution. Et ce n'est pas du tout une distribution au hasard. Alors, c'est donc un des mystères, d'une certaine manière, un des enjeux, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces structures. Est-ce qu'on est capable de construire une théorie qui en rende compte, y compris l'intégralité de ces propriétés mathématiques détaillées qui permettent de caractériser cette structure. Mais je vais laisser tomber pour le moment le côté caractérisation et attirer votre attention sur un point qui est absolument essentiel pour toute la cosmologie, c'est que la vitesse de la lumière est finie. Alors, elle est très grande, 300 000 km par seconde, c'est énorme, mais aux échelles cosmologiques, finalement, les distances se mesurent facilement en millions, voire milliards d'années-lumière. Et alors, à titre d'exemple, vous voyez par exemple, donc c'est la même chose que je vous présentais précédemment, mais simplement avec des couleurs un peu différentes, voilà, ici. Et vous voyez par exemple que la lumière, pour nous venir du cercle vert, d'une galaxie qui serait à cette distance-là, elle est, 2,7 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc on est vraiment dans les échelles cosmologiques, alors que la distance vis-à-vis du Soleil, c'est quelques minutes-lumière, Rosetta, c'est beaucoup plus près. Là, on est vraiment sur des distances colossales, et en fait, vous voyez que, d'une certaine manière, on ne peut plus séparer l'espace et le temps, puisque quand on explore les choses loin, on les explore loin dans leur passé, ce que nous appelons explorer le cône de lumière, mais ça, c'est un terme technique qui n'a pas beaucoup d'importance. Alors après, on peut se poser la question, mais finalement, jusqu'où peut-on regarder ? C'est une grande question. Est-ce que le ciel est finalement couvert de galaxies ? Auquel cas, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers. Est-ce qu'il serait complètement brillant, comme la surface du Soleil ? Ou au contraire, où est-ce que le regard se perd à l'infini ? Alors, la réponse à cette question, c'est qu'en fait, le regard remonte tellement loin dans le temps que c'est bien avant que les premières structures soient... On peut déjà aller voir au-delà des premières structures qui se sont formées. Alors, c'est un changement d'échelle auquel je vous invite. Voilà, donc si on imagine maintenant qu'on change d'échelle, c'est-à-dire que ce cercle vert, il est là, les objets plus lointains, on a de la peine à distinguer la structure parce que simplement, on n'a pas assez d'échantillonnage. Mais en fait, si on se pose la question de jusqu'où je peux remonter dans le temps, eh bien, on remonte jusqu'à 13,8 milliards d'années en arrière, en temps de retour en arrière, parce qu'à ce moment-là, on est bien avant... On regarde des coquilles qui sont avant que les premières structures se soient formées. Et en fait, si vous rajoutez le deuxième élément qui est en fait que l'univers était en expansion, donc quand on regarde plus tôt, on le regarde, il est plus comprimé, donc il est plus chaud. Donc on regarde des coquilles lointaines. Hop, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. On regarde donc des coquilles lointaines qui sont avant où les premiers objets ne se sont pas encore formés. On appelle ça les âges sombres. Et où c'est de plus en plus chaud, jusqu'au point où, en fait, on aboutit à une coquille autour de nous qui est, en gros, l'horizon qu'on ne peut dépasser avec des rayons lumineux, parce que c'est au-delà de ça, l'univers est tellement chaud et tellement dense qu'il existe sous une forme de plasma, c'est-à-dire, en fait, les atomes ne sont pas encore formés et les électrons, les protons et les photons ne constituent pas encore des atomes. Alors, je vais essayer maintenant de vous montrer un petit peu ce qui se passe d'un point de vue théorique avant le cercle rouge. Donc, avant le cercle rouge, on est dans un plasma qui est quasiment homogène et il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on a, c'est qu'on voit... Alors, j'ai écrit en rouge des protons, en bleu des électrons et en vert des photons qui sont des grains de lumière. Et ce qu'on observe, c'est essentiellement que les photons n'interagissent qu'avec les électrons. Ils ne voient pas les protons. Et donc, en fait, c'est simplement une sorte de partie de billard cosmique où les photons rebondissent, entre guillemets, sur les électrons. Et l'évolution, ben, il ne se passe pas grand-chose pendant longtemps, parce que l'évolution, c'est simplement une dilatation de ce morceau-là, la température baisse, mais globalement, à part un changement d'échelle, si on recomprime simplement ces échelles-là de par la pensée, on s'aperçoit que ça a l'air d'être indistinguable. Il ne se passe pas grand-chose, donc. Mais ça, c'est tant qu'on est à t inférieur à 380 000 ans après le Big Bang, ou une autre manière de le dire, quand la température est supérieure à, encore à 3000 degrés. Et donc, à un moment donné, aux alentours de t égale 380 000 ans, il va se passer un phénomène incroyable qui s'appelle la transition vers la transparence ou la transition vers la neutralité. C'est-à-dire que l'expansion aura eu suffisamment lieu pour que l'énergie des photons baisse suffisamment pour ne pas dissocier les premiers atomes qui commencent à se former. Ce que ça veut dire, c'est que donc on peut avoir un certain nombre d'électrons qui vont se satelliser, entre guillemets, autour de protons pour fabriquer les premiers atomes d'hydrogène. Et les photons n'auront pas tous l'énergie suffisante pour les redissocier instantanément. Alors ça, c'est assez remarquable parce qu'au fur et à mesure de ce processus-là, il y a de moins en moins de centres diffuseurs puisque les photons ne voient que les électrons. Donc progressivement, le libre parcours moyen entre deux collisions ou interactions avec des électrons augmente. Et tant et si bien qu'à un moment donné, finalement, à peu près tous les électrons auront été capturés par des protons. On aura un milieu d'atomes d'hydrogène et l'univers devient transparent puisque les photons n'ont plus de centre diffuseur qui sont les électrons. Et donc l'univers devient transparent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'immense majorité des photons, ils vont pouvoir se propager sans aucune interaction pendant 13,8 milliards d'années. Et en fait, un certain nombre d'entre eux vont arriver dans nos détecteurs. Alors c'est pour ça. Alors, en fait, nous sommes baignés, nous vivons à l'intérieur d'une mer de photons. Il y en a un nombre absolument colossal autour de nous. En fait, les plus grands nombres de photons de l'univers sont des photons issus du Big Bang. Vous allez dire, mais comment ça se fait alors que je vois des étoiles, je vois des galaxies? Bah, en fait, c'est des photons qui sont dans l'infrarouge ou dans le millimétrique, c'est-à-dire c'est simplement des photons qui ont une énergie si faible qui n'excitent pas nos capteurs visuels. Donc ils sont là. En fait, nous vivons dans une boule de feu, le résidu de la boule de feu primordiale, mais simplement on ne le voit pas avec nos yeux. Et en revanche, on va pouvoir le voir avec des capteurs. Alors, du coup, on peut revisiter maintenant l'image précédente et donc se dire, ben, finalement, ce que je fais là, quand j'observe très très loin, je suis en train d'observer juste à une distance telle qu'il a fallu quasiment tout l'âge de l'univers pour que la lumière nous parvienne, que c'est une époque qui correspond à la transition vers la transparence, quand l'univers vaut à peu près 3000 degrés, la température générale, et que donc au-delà, on ne peut pas voir plus loin, puisque au-delà, l'univers est opaque. Donc, du coup, de facto, nous vivons dans une sorte de cavité qui est tapissée par l'équivalent de la photosphère solaire, c'est-à-dire l'endroit où il y a de la transparence entre un système opaque et un système transparent. Et donc, il faut imaginer que si on met un détecteur ici, eh bien, il va être qui est sensible à ces longueurs d'onde-là, il va être capable d'imager littéralement cette sphère autour de nous. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on s'est convaincu, les théoriciens, avant même les premières mesures, que c'était très difficile d'engendrer les premières fluctuations qui allaient démarrer la formation des structures sous l'influence de la gravité. C'est très difficile d'imaginer un processus qui serait en opération dans ces époques-là. En fait, on pense que c'est tout près du Big Bang qu'on a trouvé des mécanismes qui permettent d'engendrer les premières fluctuations. Et donc, si c'est le cas, les théoriciens ont donc raisonné que le jour où on observera cette surface, eh bien, on devrait aussi observer des petites fluctuations de température qui sont l'empreinte des grumeaux primordiaux. Voilà. Alors, on peut se dire, d'accord, mais est-ce que vous avez un mécanisme quand même pour la génération des grumeaux primordiaux? Eh bien, oui. Dans les années 70, a été introduite l'idée de l'inflation, qui est en fait l'idée que avant que matière et lumière n'existent, il n'y a que l'énergie du vide. L'énergie du vide a un effet gravitationnel et peut engendrer une expansion extraordinairement rapide de l'univers jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, on sorte de cette phase d'inflation et on puisse sortir de cette phase d'inflation et convertir l'énergie du vide en particules de matière et de rayonnement. Mais on s'est rendu compte aussi, et ce n'était pas prévu dans les premiers théoriciens, on s'est rendu compte que le vide, ce n'est pas du tout le néant, c'est le vide quantique, qui est un vide qui est extraordinairement chahuté, où il y a constamment des particules qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Et donc, ces fluctuations sont des fluctuations quantiques du vide qui sont irrépressibles. Elles sont là, et cette phase d'inflation a pour elle de les dilater jusqu'à des distances cosmiques. Et donc, on s'est rendu compte, en faisant les calculs, que les fluctuations quantiques du vide avaient, au cours d'une phase d'inflation, avaient les propriétés qu'il fallait, potentiellement, pour engendrer les structures qu'on voit autour de nous, sous l'influence de la gravité, pendant les 13,8 milliards d'années qui allaient suivre. Et donc, voilà une image du vide quantique, c'est une simulation, bien sûr, qui vous donne une petite idée de cette espèce de bouillonnement que j'ai décrit comme une mousse quantique, et qui est finalement, dans ces fluctuations de densité, peuvent être ce qui va engendrer la croissance de la complexité. Donc maintenant, je vous ai raconté une histoire qu'on peut essayer de dérouler de manière linéaire, une phase très primordiale, premier milliardième de seconde peut-être, une température phénoménalement élevée, où aurait lieu cette phase d'inflation, qui se termine, engendre des fluctuations, qui vont se développer pendant la période dite du plasma primordial, dont je vous ai parlé, où l'univers se contente de s'étendre, jusqu'à la transition vers la transparence, cette coquille autour de nous, qui doit porter la trace, en principe, de ces fluctuations primordiales, et qui vont par la suite se développer en étoiles, en galaxies, en quasars, etc., et s'agréger pour former les grandes structures de l'univers. Alors, là, je vous donne donc une structure temporelle telle qu'on peut la voir si on était en dehors de l'univers, donc c'est une vision totalement de pensée, mais qui n'est pas du tout représentative de ce qui est possible du point de vue de l'exploration. Du point de vue de l'exploration, c'est beaucoup plus ça. Quand on regarde loin, on regarde vers le passé, on voit des structures, qui sont de moins en moins prononcées quand on remonte le temps, elles sont de plus en plus proches de grumeaux. Quand on arrive suffisamment loin, on arrive à une coquille qui est la transition vers la transparence, dont on pense qu'il doit y avoir des fluctuations qui traduisent l'empreinte des fluctuations primordiales. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui se superposent en plus. Il y a l'émission d'amas de galaxies, de différents processus qui rendent la vie un peu plus compliquée et un peu plus intéressante pour l'astronome. Alors, donc voilà, vous avez... Et puis, quand on est au-delà de cette coquille, bah c'est celle-là, c'est typiquement l'inobservable, mais on pense que tout à fait... C'est encore plus loin qu'a eu lieu cette phase d'inflation qui aurait engendré les fluctuations primordiales. Voilà, donc vous avez en gros une vision de la cosmologie, disons, des grandes échelles, telle qu'on la comprend aujourd'hui. Et vous allez me dire, bon, ben, très bien, mais vous m'avez raconté là une belle histoire, mais où sont les faits? Pour le moment, les faits, je vous ai montré des faits observationnels qui étaient la distribution des galaxies, mais tout le reste, je vous ai raconté une histoire. J'aurais pu être un théologien. Alors, il se trouve que, d'abord, il y a eu une première détection par Penzias et Wilson, ce qui leur a valu le prix Nobel, de cette détection qu'on appelle le corps noir cosmologique, la détection de la boule de feu primordiale. Puis il y a un autre prix Nobel au porteur d'un projet de satellite qui s'appelait COBE, qui a mesuré très précisément les caractéristiques de la boule de feu primordiale, enfin ce qu'on mesure aujourd'hui, et qui a été la première à détecter ces fameuses fluctuations, la trace des grumeaux primordiaux. Donc là, ça a été un changement qualitatif absolument incroyable dans la communauté, parce qu'on est passé d'une construction intellectuelle, avec des prédictions, à quelque chose qu'on a détecté pour de vrai, tel qu'on l'attendait. Et donc ça a fait une sorte de changement paradigmatique, qui a fait que bah, finalement les tenants d'un certain type de modèle ont pris le dessus. Alors, quand on a appris les résultats de COBE, nous avons été un certain nombre, donc en 92, à l'annonce de ces résultats, on n'a pas pu s'empêcher de rêver à une expérience qui serait l'expérience ultime, qui permettrait de mesurer tous les détails de cette boule de feu primordiale, d'extraire les caractéristiques physiques des grumeaux, et donc d'en apprendre des choses sur la physique et sur notre histoire de l'univers et sur sa composition. Donc après quelques années d'études, pendant 3 ans, où on a beaucoup travaillé, on a finalement été sélectionné sur concours en 1996 par l'Agence spatiale européenne pour construire un projet qui allait devenir, dont le nom allait devenir Planck. Au départ, ça s'appelait Cobra Sonda. Ce qui n'était pas gagné d'avance, étant donné qu'il fallait repousser fortement les limites des technologies établies de l'époque. Alors, l'objet qu'on a créé, voilà, ça s'appelle Planck. Vous avez une petite idée, c'est un objet qui fait près de 2 tonnes, de 4 mètres par 4 mètres. Pour vous situer un peu, alors attendez, voilà. Donc ceci est le miroir primaire, donc il faut imaginer des photons qui se sont propagés pendant 13,8 milliards d'années, depuis les dernières interactions avec les électrons dans le plasma primordial, et qui se sont propagés sans aucune interaction dans tout ce grand morceau d'univers, qui arrive donc sur le miroir primaire du télescope, rebondissent sur le secondaire qu'on ne voit pas bien, et vont dans le plan focal où il y a deux instruments, notre instrument, l'instrument dit haute fréquence, entouré de l'instrument dit basse fréquence. Tout ça est à une température très froide, de l'ordre de moins de 160 degrés Celsius. Et en fait, cet objet-là, on peut être qualifié pour l'essentiel, un appareil photo dans un frigo. Pourquoi dans un frigo? Tout simplement parce que les détecteurs qui sont utilisés, qui permettent de mesurer des petites variations totalement microscopiques de température d'un endroit à un autre, doivent être refroidis très proche du zéro absolu. Et donc, un des enjeux de cette proposition et de ce satellite était de fabriquer le point le plus froid de l'univers, quasiment très très proche du zéro absolu, et de l'envoyer en gros à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour qu'on puisse faire la cartographie du fond du ciel. Ceux que ça intéresse peuvent aussi noter qu'il a fallu en gros 20 ans entre le premier projet et les premiers résultats, et au cours de ces 20 ans, ça a coûté environ 6 centimes par an et par Européen. Et nous avons été à peu près 400 chercheurs sur environ 1000 personnes qui ont contribué au développement de ce satellite, si on inclut les gens de chez Thales. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont contribué, ou à l'ESA. En ce qui me concerne, ça a été une expérience intéressante, parce que 400 chercheurs, c'est un peu essayer de piloter 400 chats, qui ont tendance à partir dans tous les sens, et donc essayer d'amener tout le monde dans la même direction est quelquefois un petit peu difficile. Alors, bien évidemment, on a été beaucoup pour fabriquer ce satellite, donc, qui est donc sous l'égide de l'ESA, avec deux instruments, l'instrument haute fréquence et basse fréquence, et vous voyez que finalement, donc, nous avons fortement collaboré avec l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, qui était la responsabilité première du développement, de la calibration et de la fourniture de l'instrument haute fréquence, et l'Institut d'astrophysique de Paris, qui était donc ici, notamment sous ma houlette, pour l'analyse des résultats des échantillons de mesures pris dans le ciel et qui arrivaient au sous-sol. Et je vais donc vous parler du reste de l'histoire. Mais bien évidemment, ça c'était les instituts pilotes, et vous voyez les logos de beaucoup d'autres instituts qui ont contribué, tout un tas de pièces différentes de cet immense Lego. Mon propos ce soir n'est pas de vous décrire les détails de Planck, donc voilà, au bout de 16 ans, la maquette s'est transformée en cet objet qui est là à Kourou, en train d'être époussé pour enlever les dernières poussières. Et le grand moment arrive. Alors, vous voyez que c'est quand même... Il a fallu pas mal de temps. Hein, cette fois, on est en 2009. On est au port spatial de l'espace, à Kourou, en Guyane. Et, on va pouvoir assister au lancement. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Alors, sauf que vous n'avez pas le son. À ce moment-là, il y a l'équivalent d'une explosion absolument incroyable. Il y a deux boosters qui ont 220 tonnes de poudre qui s'allument simultanément. Il y a une onde de choc incroyable qui vous arrive et qui vous prend au ventre. Et puis, bon, bah, voilà, on a son bébé qui est sur ce gros pétard et on se demande si tout va bien se passer. Voilà, alors, dans cette fusée Ariane 5, il y avait un grand morceau de l'aventure spatiale européenne scientifique qui était en jeu, parce qu'il y avait aussi le satellite Herschel. Et donc, sous cette coiffe, il y avait à la fois le satellite Herschel en haut et le satellite Planck en dessous, et qui ont été envoyés, en gros, au point de Lagrange numéro 2. c'est-à-dire au centre de l'orbite rouge que vous voyez. Donc, vous voyez le Soleil au bout, vous imaginez en gros 150 millions de kilomètres pour aller du Soleil à la Terre, et vous rajoutez 1%, 1,5 million de kilomètres, pour aller au point de Lagrange, et ce point de Lagrange tourne avec, fictif, enfin je veux dire non matériel, tourne autour du Soleil en même temps que la Terre. Donc si on se met au point de Lagrange, on peut regarder le cosmos en ayant toujours la Terre, la Lune, le Soleil, toutes les phases, tous les objets polluants, entre guillemets, de manière lumineuse, dans le dos, permettant donc d'alimenter les panneaux solaires, et d'avoir le cosmos devant soi. Et donc c'est ce que... On est arrivé à ce point-là à peu près en moins de 2 mois, en fait. On est arrivé en froid et on a pu commencer à faire les mesures. Et donc la manière dont Planck fait les mesures, c'est qu'il se met donc le cul face au soleil, les panneaux solaires, comme ça, et il tourne sur lui-même. Et au fur et à mesure, donc, il va pouvoir enregistrer ce qui se passe sur un grand cercle. Et ce grand cercle, au fur et à mesure que le point de Lagrange tourne autour du Soleil, va parcourir toute la surface céleste, mais toujours en ayant les sources de pollution derrière, tout en ayant la mesure de l'intégralité du cosmos. Et donc vous avez une petite idée de, voilà, c'est une visualisation de la manière dont Planck fait le relevé du fond du ciel dans des longueurs d'onde qui sont inaccessibles au regard humain. Et donc progressivement, bon, je vais laisser l'animation se dérouler parce qu'elle donne une assez bonne première image de la visualisation du fond du ciel dans une des fréquences de mesure. Et donc vous reconnaissez le plan galactique horizontal, avec dans les mêmes coordonnées, le centre, c'est le centre galactique. Vous le voyez tel qu'on l'observe avec des étoiles, donc dans les longueurs d'onde visuelles, et ça c'est le rendu qu'en ont donné Planck, et à cette fréquence-là, c'est essentiellement le rendu dû à l'émission de la poussière. Et en fait, on voit à peine l'émission, moi je la reconnais, mais on voit à peine, voyons voir, voilà, on voit à peine dans ces coins-là, suffisamment haut dans la galaxie, les petites fluctuations là sont en fait les fluctuations primordiales de la lumière et donc du fond du ciel émis il y a 13,8 milliards d'années. Bien, donc nous avons eu la chance, la chance qui est aussi le résultat du talent de tous ceux qui y ont contribué, que cette mesure dite cryogénique, donc fonctionnement proche du zéro absolu, fonctionne parfaitement, plus longtemps même que ce qui était requis. Et donc nous avons la dernière commande, et donc Planck a été mis en hibernation le 23 octobre 2013. À partir de ce moment-là, le reste de l'histoire s'écrit au sous-sol de l'IAP, donc vous ne pouvez pas le voir, mais voilà, juste en dessous de nous, à 2-3 mètres, le centre que j'ai donc eu la chance de pouvoir développer grâce notamment au support du CNES, notre Centre National d'Études Spatiales, qui est l'endroit où ont été d'abord collectées l'ensemble des données, environ 1000 milliards d'échantillons temporels au cours de ces différentes mesures, et puis transformées progressivement pour fabriquer des choses qui parlent à l'œil, puis finalement des choses qui parlent au cerveau. Alors, parler à l'œil, voilà. Donc vous voyez, chacun de ces ovales est la cartographie de tout le ciel, mais à des fréquences différentes. Donc quand on regarde, en ne gardant la lumière qu'aux alentours de, disons, 30 GHz, là, voilà, le ciel ressemble à ça. Quand on est aux alentours de 100 GHz, ça veut dire des longueurs d'onde de l'ordre de 3 mm, le ciel ressemble à ça, etc. Donc vous voyez que on augmente de fréquence, et ce qui est intéressant de savoir, c'est, vous ne le voyez peut-être pas, mais ce sont les échelles. Et si on regarde les grumeaux, les fluctuations qu'on observe dans le fond, eh bien elles sont typiquement de quelques dizaines ou au maximum de la centaine de millionièmes de degrés. Donc là aussi, on peut comprendre pourquoi il a fallu autant de temps et tant d'efforts pour être capable de cartographier ce fond de ciel, c'est qu'on est en train de parler de microscopiques fluctuations de quelques millionièmes de degrés dont je vous ai parlé. Donc il fallait une mesure très précise et à haute résolution, mais c'est fait. Donc voilà, ben là on a donc la première partie du contrat qui est remplie. Le fond du ciel a été cartographié, donc l'intensité de l'émission, à 9 différentes fréquences. À partir de là, on voit bien aussi que ce ciel n'est pas toujours le même. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents mécanismes physiques qui sont en l'œuvre pour, en plus des fluctuations de la boule de feu primordiale qui sont en arrière-plan, il y a aussi des émissions, et notamment celles de notre propre galaxie, que vous reconnaissez à l'évidence, puisque dans tous les cas, on observe le plan de la galaxie dans lequel nous vivons, avec le centre galactique, qui est une espèce de boule qu'on voit. Et donc, on se rend bien compte que là, on observe d'abord un avant-plan galactique, la galaxie dans laquelle on vit, avant de pouvoir voir l'arrière-plan. Et donc, la question, c'est, peut-on séparer le bon grain de l'ivraie ? Eh bien oui, on peut s'en rendre compte là, parce qu'on voit bien que certains processus d'émission, par exemple celui de la poussière, qui est en rouge là, varie en fonction de la fréquence, et donc on va utiliser le fait que différents mécanismes d'émission ont une dépendance en fréquence différente pour faire cette séparation. Et donc, c'est un autre défi qui est séparer les différentes émissions. Alors, et en plus, quand on regarde dans le détail, il y a l'émission de d'autres galaxies, etc. En fait, c'est un problème auquel un certain nombre de mathématiciens, de mathématiques appliquées, s'étaient intéressés, parce que c'est le problème du cocktail. En fait, on peut très bien être dans une situation où, dans une pièce bruyante, où il y a beaucoup de conversations, il y en a une en particulier qui nous intéresse. Et vous avez remarqué qu'en fait, on est capable, avec un certain nombre de mouvements, de capter des conversations particulières. Alors ça, c'est pour la partie fréquence. Mais en fait, ce problème-là a été donc théorisé de manière plus détaillée en disant, qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs micros à différents endroits ? Est-ce qu'en utilisant l'information de ces différents micros, je vais être capable d'isoler telle conversation ou telle conversation ? La réponse est oui. Et c'est exactement ce qu'on fait, non pas avec des sons, mais avec ces images. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que chacune des 9 cartes dont je vous ai parlé, c'est l'équivalent de l'enregistrement par un micro. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir enlever les différents voiles. Alors, on peut mesurer d'autres choses que le fond cosmologique d'arrière-plan. Là, je vais uniquement me concentrer là-dessus, mais on peut aussi apprendre des tas de choses sur la galaxie, sur d'autres galaxies, qui sont un autre propos. Mais voilà, une fois qu'on a fait donc l'enlèvement du voile, eh bien, on découvre en fait le fond du ciel et ses grumeaux. Alors ça, on a eu la chance de l'annoncer à Paris, le 21 mars 2013, la première fois que l'humanité pouvait voir le fond du ciel avec tous ces détails. Et vous remarquerez que j'ai mis la même veste que ce jour-là. Mais entre-temps, j'ai un peu poussé la barbe. Ceci a été remarqué. Ceux qui lisaient Le Monde à cette époque peuvent reconnaître l'image qui était en une et en page 2, mais on a aussi, alors pour un astrophysicien, c'est quand même quelque chose de plus rare d'avoir la une du New York Times, et des journaux un peu dans le monde entier. En fait, d'une certaine manière, tout le monde s'intéresse, ou s'est intéressé, au moins pendant quelques instants, à cette découverte. Voilà. Alors, voilà l'objet donc essentiel qui est le résultat de tous ces efforts. Finalement, donc cette carte-là, qu'on peut aussi observer d'ailleurs au plafond de l'Institut d'astrophysique quand on est au forum, en très grande dimension, mais bon, on ne pourra pas y aller ce soir. Vous voyez aussi une zone grisée qui est en fait les endroits qui correspondent à la galaxie et donc qu'on ne peut pas utiliser. Mais donc tout le reste, eh bien maintenant, c'est ce qu'on a comme information pour essayer de reconstituer quel était l'état du milieu au moment où cette lumière a été émise, c'est-à-dire il y a 13,8 milliards d'années. Alors, le contact avec la théorie n'est pas direct, parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qui s'était passé à un endroit précis de l'espace et du temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est voilà les propriétés moyennes qu'on attend, par exemple des grumeaux, dans un certain type de théorie. Donc, en fait, on peut imaginer que ce que vous voyez comme des couleurs soit en fait des vagues. Imaginez que la couleur soit en fait le codage de la température, de la hauteur des vagues, une planète de vagues, enfin un fond, une boule de vagues, avec des hauteurs plus ou moins hautes. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce qu'on va utiliser comme information, c'est la hauteur typique de vagues d'une certaine distance crête à crête. Et on va mesurer, en fait, c'est ce qui est mesuré ici, ce qu'on cherche à faire, c'est mesurer une courbe qui est de ce type-là, qui dit, en fonction de la distance crête à crête, ou de la fréquence des vagues, voilà la hauteur typique de ces vagues. Voilà, ça c'est le contact où on extrait de l'information sous une forme de... On part d'une image codée, et on en tire notamment l'amplitude relative de la taille des grumeaux, de l'empreinte de la taille des grumeaux primordiaux, en fonction de la taille de ces grumeaux. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui peut être prédit. Et donc, bien avant ces expériences-là, il avait été, les théoriciens, dont j'ai fait partie d'ailleurs, ont calculé quelle serait cette courbe dans différents types d'univers. En disant, ben voilà, s'il y a un peu plus de matière de tel type, si l'univers s'étend un peu plus vite, si les grumeaux sont plutôt de cette forme-là, à ce moment-là, on utilise nos théories et on prédit quelle doit être cette courbe. Donc en fait, c'est vraiment, on est vraiment dans la position d'une investigation criminelle quasiment, c'est-à-dire que les théoriciens ont fabriqué l'empreinte, enfin l'équivalent de l'empreinte digitale, d'univers fictifs en fonction de leurs paramètres, de leurs constituants, des différentes lois qu'on a, et on peut, d'une certaine manière, relever l'empreinte digitale de l'univers, c'est ce que Planck a fait, avec grand détail, et de comparer les deux. Alors là, il peut se passer plusieurs choses. Il peut se faire que, par exemple, dans tout l'atlas que les théoriciens ont développé, ne se figure pas cette empreinte. Alors là, ça veut dire qu'on est vraiment tombé sur un os, alors c'est magnifique d'ailleurs, par ailleurs, mais ça veut dire qu'en fait, on n'avait aucune indication théorique de ce que l'univers allait nous présenter. Bon, ce n'est pas ça du tout qui s'est produit. En fait, il s'est apparu que nous avions dans nos cartons, entre guillemets, des modèles théoriques qui permettent de très très bien décrire justement ce qui a été mesuré. Alors, encore une fois, je vous avais dit, bon voilà, c'est le type de courbe qu'on cherche à mesurer. En pratique, voilà les mesures de Planck. Donc les mesures de Planck avec des barres d'erreur que vous voyez à peine, qui sont des toutes petites barres, voilà les mesures qui disent, ben voilà, en fonction les tâches qui font de l'ordre, j'essaie de voir si je peux avoir mon curseur, oui, voilà, les tâches qui font de l'ordre du degré sont de contraste beaucoup plus fort que les tâches plus petites, disons, d'un dixième de degré. Voilà, donc ça c'est typiquement l'information de base, et maintenant, ça c'est l'empreinte digitale, et maintenant je vais vous montrer l'empreinte, le modèle théorique qui a la meilleure description, la voilà. Vous allez donc, si on choisit un certain modèle d'univers et qu'on prend un certain contenu de cette théorie-là, qui sont donnés par les paramètres qui sont là, qui sont déterminés à mieux que le pourcent, alors on a cet ajustement absolument phénoménal. Et par ailleurs, on peut, de manière tout aussi intéressante, exclure en fait énormément de modèles, parce qu'en fait la science... C'est pas la poursuite de la vérité, c'est tuer les théories qui ne décrivent pas la réalité. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc on est simplement de grands nettoyeurs. Et voilà, du coup, vu l'ajustement et le fait qu'il faut des valeurs très très précises déterminées au niveau du pourcent, ça veut dire qu'on élimine énormément d'autres possibilités. Alors, on peut tirer bien sûr beaucoup d'autres choses de ces mesures. Chose que je ne vais pas chercher à décrire dans un environnement grand public, ce serait plutôt dans un stage de DEA, mais je voudrais faire quelques réflexions sur le modèle à 6 paramètres qui décrit ces données de manière aussi incroyable. Vous allez me dire, c'est quand même un peu phénoménal de décrire le contenu de l'univers, son expansion, les caractéristiques des grumeaux primordiaux, tout ça avec 6 paramètres. Alors, quels sont ces 6 paramètres? La première chose que je veux dire, c'est qu'il y en a 3 qui sont pour déterminer la dynamique de l'univers, c'est-à-dire son contenu. Quels sont les grands types de contenu en énergie de l'univers qui permettent de déterminer la manière dont il évolue en fonction du temps? Il y a un paramètre qui s'appelle la profondeur optique, qui est une sorte de paramètre de nuisance qui permet simplement d'encapsuler les incertitudes sur la manière dont la première lumière jaillit dans l'univers, disons aux alentours de quelques centaines de millions d'années, les premières étoiles, les premiers quasars. Ceci a un effet sur le rayonnement cosmologique qu'on peut paramétrer sans être capable de le calculer à partir des principes premiers. Ceci est fait pour le futur. Et puis 2 autres paramètres qui suffisent, semble-t-il, à décrire l'amplitude des grumeaux primordiaux en fonction de leur taille. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la partie caractéristique. Et quand on fait ça, eh bien finalement, on se rend compte qu'on peut partir de, c'est à peu près les 1000 milliards d'échantillons dont je vous parlais, on va en extraire les 9 cartes de 50 millions de pixels à peu près chacune, donc c'est un appareil photo modeste, hein, finalement, 50 millions de pixels, ça se trouve à la FNAC, dont on tire, sauf qu'en revanche, le contraste qu'on est capable de mesurer, ça se mesure en millionième de degré, bien sûr. D'où on tire une carte qui elle-même fait 50 millions de degrés, 50 millions de pixels, qui est donc la carte du fond du ciel, dont on va tirer un certain nombre de mesures de hauteur, typiquement de tâches, typiquement 2 millions, et qu'on peut ajuster, ces 2 millions de modes de vibration, d'une certaine manière, s'ajustent avec seulement 6 paramètres, et on peut montrer que si on rajoute des composantes supplémentaires dans ce modèle d'univers, on n'améliore pas la description, et donc ça permet aussi d'exclure encore d'autres modèles, disons, plus sophistiqués. Alors, on a donc révisé la composition de l'univers. Bon, donc, je reviendrai un peu plus tard. On a vérifié, on a établi qu'une grande partie de l'univers est sous forme de matière sombre et d'énergie noire, et que donc, en fait, les éléments dont nous sommes faits ne sont qu'une toute petite minorité de l'univers. En fait, la matière usuelle, c'est à peu près 5% de la densité d'énergie de l'univers. Donc, très très peu. Et on ne sait pas grand-chose sur les 95% restants. Donc on est dans cette situation très étrange. D'une certaine manière, on sait qu'il doit y avoir des constituants de l'univers qui obéissent à certaines lois physiques. On est capable de les mesurer, de les pondérer, de savoir combien il y en a. Mais on connaît pas exactement. On connaît aussi l'effet que ça peut avoir sur la croissance des grumeaux. Mais on ne sait pas exactement la constitution ultime de cette matière ou de cette énergie qui est inusuelle et qu'on n'a pas encore réussi à complètement maîtriser. Alors, donc ça, l'ajustement dont je vous parlais de cette courbe a permis donc de fixer la composition de l'univers. Mais en fait, d'une certaine manière, ce qui me motivait moi plus, beaucoup plus, c'était en fait qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les grumeaux primordiaux. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'une traduction de cette courbe-là, donc qui est la courbe de Planck, montre que, en fait, une certaine amplitude, cette fois des grumeaux primordiaux, donc avant toute l'évolution, là on est revenu maintenant aux tout premiers instants du Big Bang, on arrive à trouver que finalement les tailles des grumeaux ont une certaine différence entre les différentes échelles, ce que vous voyez peut-être dans cette courbe que je ne vous demande pas de comprendre dans le détail, je cherche mon curseur, où est-ce qu'il est le curseur, je ne sais pas où il est, bon. Enfin, vous voyez une courbe qui est légèrement inclinée, et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est une pente de quelques pourcents qui correspond exactement à une prédiction faite dans les années 80 par Moukhanov et Chibisov, qui étaient justement les premiers qui ont réalisé que dans une phase d'inflation, les fluctuations irrépressibles du vide quantique pouvaient être à l'origine des grumeaux qui allaient démarrer la course à la complexité. Et ils ont justement prédit qu'il devait y avoir ce type de comportement très difficile à mesurer, et donc il a attendu d'avoir la fin des résultats Planck pour qu'on soit capable de le faire. Mais la conséquence, du coup, est assez intéressante, parce que ça veut dire que finalement, nous sommes peut-être les enfants des étoiles, mais les étoiles doivent venir de quelque part. En fait, nous serions les enfants du vide. Et donc, c'est le vide quantique qui est à l'origine même de tout ce qu'on observe autour de nous. Donc c'est une sorte de pirouette intéressante, finalement, du vide surgit à peu près tout le reste, mais avec tout ceci fondé sur des théories physiques et des choses qu'on peut confronter aux observations. Alors justement, en parlant de confrontation aux observations, je ne vais pas décrire dans le détail, mais il se trouve que Planck, on peut dire, bon ben d'accord, maintenant vous avez calibré un modèle d'univers avec les observations de Planck, mais maintenant, en principe, vous connaissez tout, donc il n'y a plus qu'à tourner la manivelle, vous devez pouvoir tout prédire, au moins sur l'univers à grande échelle. Alors, on peut par exemple prédire quelle est une certaine propriété de la lumière qui s'appelle la polarisation, sa polarisation, que Planck a mesurée, et dans ces cas-là, il y a d'autres courbes qui sont les... J'ai perdu le pointeur, c'est un peu ennuyeux. Attendez, je vais essayer de le trouver quand même. Ah, ça y est. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a d'autres courbes de ce genre-là qui mesurent cette fois les propriétés de la polarisation, d'autres propriétés encore sur les effets de l'anti-âge gravitationnel. Et tout ça est en fait décrit par le même modèle. La courbe bleue, c'est le modèle qui a été calé sur la température et qui décrit finalement tout le reste. Mais on peut aussi comparer ça avec les calculs dits de nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire les fameuses 3 premières minutes, et on est complètement en accord. On peut aussi comparer ces mesures-là, ces prédictions, au type d'univers qu'on est capable de mesurer, en mesurant, je reviens tout à fait au début, c'est-à-dire les grandes structures de l'univers, l'éponge cosmique, bon, on peut caractériser mathématiquement, notamment par une courbe, cette structure de l'éponge cosmique qui est parfaitement prédite, elle aussi, par ce modèle de Big Bang. Donc en fait, finalement, on a construit un modèle qui est capable maintenant de prédire, ou d'ajuster avec succès, comme vous voulez, une myriade d'observations différentes couvrant quasiment tout l'âge de l'univers et sur des échelles, au moins sur 3 décades d'échelle de distance. Donc, en fait, c'est un assez grand succès, mais ça mérite de réfléchir un peu à ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas... oui, je voudrais bien qu'il... Pardon ? Je ne sais pas, j'aurais voulu que... Je voudrais simplement aller à la... Ah ! J'ai fini par avoir... Pardon ? Oh, oui. Merci. Alors, deny. Ah oui, ah oui, sauf que j'y arrive pas. Ah, c'est très agaçant. Bon, je ne suis pas sûr que je sois capable... Est-ce que je vais être capable de gérer ça ? Non, mais j'essaye de voir, mais bon, sinon on va abandonner parce qu'on ne va pas passer le... non, je ne suis pas capable de le faire. On peut avoir des mystères dans l'univers qu'on n'est pas capable de maîtriser. Bon, alors, je voulais dire quelques mots. Moi, c'est très agaçant quand même. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Le pointeur disparaît au moment où j'arrive. Bon, écoutez, tant pis, on va faire avec. Bon, le modèle à 6 paramètres... Pardon ? Pardon ? Non, 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 non. J'ai une petite idée de d'où ça vient et je ne vais pas avoir le temps de... Je peux ?
Oui, évidemment.
Bon. Alors j'arrête le diaporama. Je vais essayer de régler ce problème-là. D'abord, je vais couper ce que j'aurais dû faire. Le Wi-Fi, voilà une chose. Et là, maintenant, je vais essayer d'obtenir... Attendez, excusez-moi, c'est un peu désagréable. Oui, oui, bon. Comment... Le pointeur, je cherche mon pointeur. Et je ne l'ai pas. Damned. Il refuse. Je suis désespéré. Je n'ai pas, et pourtant je bouge frénétiquement mon pointeur, sauf qu'il n'apparaît pas. Non, c'est pas ça. Écoutez, là je pense qu'on va quand même être malheureusement obligé de continuer comme ça. Attendez, il y a peut-être une dernière chose que je peux faire. Bon, je vais me lancer à faire quelque chose qui est peut-être un peu osé. Préférence système. Bon, je vais effectivement faire ceci. Je fais. Non. Là, pour le moment, j'ai un écran noir, voilà, mais je suis en train, voilà, deny, je suis en train de virer cette chose qui est au milieu de mon écran, voilà. Donc, je suis presque, j'y suis presque, et maintenant, je vais essayer de redémarrer ma présentation où j'en étais, voilà. Maintenant, ah oui, maintenant, il faut que je rebranche, peut-être. Voilà. Et... Voilà. Alors, maintenant, je voudrais accéder. Alors, il faut quand même que je retrouve mon pointeur. Maintenant, voilà, hop. Sauf que c'est plus dans le même état que précédemment. Pourtant, j'ai donné des... Vu le nombre de présentations que j'ai données, ce genre de choses arrive encore. C'est quand même incroyable. Voilà, hop. Donc, nous en étions là. Bien, alors... Donc encore une fois, ce que je vous ai raconté, c'est que nous avions un modèle finalement incroyablement minimal qui permet de décrire une myriade d'observations. Alors, ce modèle est effectivement incroyablement minimal, mais sa simplicité est vraiment trompeuse, parce qu'en fait, ce modèle, il est construit sur nos deux théories fondamentales qui décrivent le monde microscopique et le monde macroscopique, qui sont la théorie de la relativité générale d'une part et la mécanique quantique de l'autre, et d'une certaine manière, leur mariage, puisque je vous ai parlé du fait que ce sont les fluctuations quantiques du vide qui vont engendrer les fluctuations qui vont, sous l'influence de qui vont perturber la description gravitationnelle de l'espace et vont aboutir jusqu'à la formation des structures. Et en fait, même ces deux théories, ce n'est pas suffisant. Il faut les suppléer par un certain nombre d'hypothèses hardies. Alors, la première, qui est peut-être assez évidente, c'est qu'il faut postuler que les lois de la physique sont toujours et partout les mêmes. Parce que la possibilité même de la connaissance disparaît si vous imaginez que vous vous éloignez d'un kilomètre, ou d'un million de kilomètres, ou d'un milliard de kilomètres, et tout d'un coup, les lois de la physique ont complètement changé. Vous ne pouvez plus dire grand-chose. Donc, en fait, ce qu'ont fait les cosmologues depuis un certain temps, c'est de faire l'hypothèse assez hardie, de dire, bon, on va supposer, même si on n'a aucune preuve, au moins au moment où on fait la supposition, que les lois de la physique sont toujours et partout les mêmes. On va aussi supposer que l'univers, à grande échelle, est homogène et isotrope. On va supposer que la relativité générale, qui a été validée par des mesures très très précises dans le système solaire, est encore valable à des échelles qui sont 15 ordres de grandeur plus grandes. Et on va aussi appliquer la mécanique quantique dans ce contexte complètement différent. Et puis on va saupoudrer le tout de toute la physique classique pour décrire les oscillations acoustiques de l'univers primitif. Alors quand on fait ça, et qu'on utilise tous ces ingrédients, on arrive à ces prédictions. Mais le point qui est important, c'est que si vous changez quoi que ce soit dans tout ça, un tout petit peu, à ce moment-là, les prédictions sont complètement différentes. Et vous pouvez, à ce moment-là, comparer aux observations de l'univers et dire, ben non, ça décrit pas du tout. Et donc, en fait, ce qu'on fait par là même, c'est qu'on teste et on valide toutes ces hypothèses. Et c'est là que c'est quand même absolument incroyable que notre petit esprit humain puisse arriver à penser des choses aussi globales et le décrire en grand détail, alors qu'il n'y a rien qui garantit que ça soit possible. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on dispose d'un modèle qui marche et qui rend compte, voire prédit, énormément de faits observationnels, qui me prendraient vraiment beaucoup de temps pour décrire dans le détail. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est le néanmoins. Parce qu'en fait, en dépit de tous ces succès, on n'a pas vraiment compris quelle est la physique de l'inflation. Je vous ai parlé, il y a une phase d'inflation exponentielle avec des fluctuations quantiques du vide, etc. Mais ceci devrait faire partie d'une théorie plus complète qui nous échappe pour le moment. Et on peut toujours se poser la question, qui est dans le cadre rouge ici, est-ce qu'il n'existerait pas un paradigme explicatif qui serait complètement différent? Alors, pour le moment, on n'en a pas besoin. Mais une des raisons pour lesquelles les astronomes continuent à gratter, c'est de dire, on va peut-être tomber sur une faille qui va nous donner l'idée de vers quoi il faut aller pour une théorie qui serait plus complète. Une théorie, donc une description du monde qui serait plus puissante, plus complète, et qui nous permette de penser des choses nouvelles. Alors ça, c'est du point de vue de la physique de l'inflation. Mais il y a un autre grand mystère qui est la composition de l'univers qui permet de décrire les données est complètement sidérante. En fait, 95% est sous une forme inconnue, à nous chétifs êtres humains. Et donc, le mystère, c'est qu'est-ce que c'est notamment que cette énergie sombre qui fait 70% du bilan d'énergie totale. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un autre satellite qui est construit en ce moment, dont la responsabilité de la direction est aussi à l'Institut d'astrophysique, qui vise à essayer de faire des mesures par d'autres mécanismes qui permettraient de mieux comprendre la physique de cette énergie sombre. Mais je vais finir sur une dernière planche dont on ne sait pas encore quoi faire. Je vous ai dit que ce modèle-là, qui est donc, où on calibre le modèle d'univers sur des observations qui correspondent à l'état de l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années. Donc l'univers très primitif. Et je vous ai dit aussi que donc avec ce modèle-là, on peut tourner la manivelle et donc décrire ce qui se passe à toute autre époque, notamment aujourd'hui. Et ce qu'il en sort, c'est qu'aujourd'hui, dans ce modèle-là, le taux d'expansion de l'univers devrait être, enfin doit être, de 67 km par seconde et par mégaparsec. Ce qui veut dire que deux objets séparés d'un mégaparsec s'éloignent l'un de l'autre à 67 km par seconde. Mais évidemment, je vous ai dit, on a comparé les prédictions du modèle avec beaucoup de choses. Mais il y en a une où ça ne marche pas très très bien. Ça s'appelle l'échelle de distance. Et donc, par une série de mesures, on peut essayer de mesurer localement quel est le taux d'expansion. Et on trouve plutôt, au lieu de 67 km par seconde et par mégaparsec, on trouve plutôt de l'ordre de 72. Alors vous allez dire, c'est une blague. Et alors ? Oui, sauf que dans les deux cas, les mesures sont très précises et donc les barres d'erreur estimées sont pour Planck de l'ordre de 0,6 km par seconde et par mégaparsec et de quelques kilomètres par seconde pour la mesure dite locale du taux d'expansion. Et donc ça, c'est pas compatible. Ça, c'est clairement pas compatible. Alors, du coup, il y a plusieurs explications. Il y en a une qui est, finalement, on ne comprend pas suffisamment nos mesures et il y a peut-être un effet systématique pervers qui s'est glissé dedans. Il y a très très peu de chances pour que ça soit dans les données Planck, parce que maintenant, nous avons des confirmations d'autres expériences qui pointent exactement sur les mêmes valeurs. Donc, est-ce que les étoiles, par exemple, céphéides, qui nous permettent de calibrer cette échelle de distance locale, nous induisent en erreur? Peut-être, ou peut-être pas. Et ça, c'est le côté intéressant. Donc, on en arrive à ce qui peuple les discussions des cosmologues quand ils se rendent compte, c'est peut-être que c'est une première indication qu'il nous manque quelque chose dans la description de l'univers, puisque des observations locales aboutissent à une certaine valeur du taux d'expansion de l'univers, et un modèle calé sur l'univers primitif, mais qui décrit énormément de choses, aboutit à une valeur qui est substantiellement et significativement différente. Donc peut-être qu'il manque quelque chose au modèle qui modifierait cette extrapolation. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives depuis 2-3 ans, en gros, depuis que les résultats Planck sont sortis, et puis de plus en plus, ils se sont de plus en plus stabilisés et fortifiés. On a cherché un certain nombre d'éléments supplémentaires qui pourraient expliquer cette différence, et pour le moment, aucun modèle ne s'impose. Et c'est là que ça devient un peu rigolo. Donc en fait, on a résolu énormément de choses, on a compris des tas de choses, on a validé des tas de choses, et puis on aboutit à de nouvelles questions. Je vous en ai cité un certain nombre. C'est quels sont les mécanismes détaillés au cours des 3 dernières transparences. Je vous ai parlé de 3 types de questions qui nous motivent. L'une, c'est quel est le détail de cette physique de l'univers très primordial. Et ça, on peut aller le chercher dans des mesures dites de la polarisation du corps noir cosmologique. Et une équipe de l'IAP, justement, participe à une expérience qui est dite du télescope du pôle sud. Un magnifique télescope d'une dizaine de mètres au pôle sud, mené par les Américains que nous avons rejoints. Donc ça, c'est une des manières d'aller vers la physique de l'univers primordial. En ce qui concerne le contenu, je vous ai dit qu'il y avait de la matière sombre, et surtout de l'énergie sombre, dont on aimerait mieux comprendre le comportement sous l'effet de la dilatation. Et là, il y a un satellite, notamment, pas que d'ailleurs, mais notamment le satellite Euclide, dont je vous ai déjà parlé. Et puis, sur le taux d'expansion de l'univers, il y a aussi différentes manières d'essayer de résoudre cette difficulté. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que de nouvelles réponses nous attendent. Il ne faut pas du tout avoir l'impression d'une fin de l'histoire, qu'on a tout compris, etc. C'est incroyable ce qu'on a réussi à faire, en simple peut-être 27 ans et quelques milliers de personnes et quelques centaines de millions d'euros. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup de questions et donc de nouvelles réponses à trouver. Et certaines ne manqueront pas de nous ébouriffer un peu, comme quand on s'est rendu compte de ce que voulait dire l'énergie du vide. Ça a donné un peu des cauchemars aux théoriciens. Et donc nous avons toute une palette de moyens observationnels que nous allons utiliser pour essayer de continuer à affiner notre compréhension du monde dans lequel on vit. Enfin, je voudrais conclure par dire que pendant l'expérience Planck, on a développé un site web qui s'appelle www.planck.fr, qui permet d'avoir pas mal d'informations plus détaillées, parce que je me rends bien compte qu'essayer de couvrir 27 ans de développement en 40 minutes, qui ne doivent plus être 40 minutes maintenant, c'est un peu difficile, donc vous trouverez pas mal d'éléments là-dedans. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais quand même faire un petit clin d'œil, c'est que je me suis rendu compte en regardant dans mes archives que j'avais déjà parlé dans les mardis de l'IAP, le 5 mars 2002, déjà sur les grandes structures et le corps noir cosmologique, mais vous voyez qu'à l'époque, Planck ressemble à ça dans les maquettes. Et donc, j'avais conclu à l'époque mes transparents de 2002 par cette slide, par cette planche, et où j'annonçais qu'un jour, peut-être, je reviendrai dans cet institut parler des résultats de Planck. Eh bien, voilà, la boucle est bouclée, et je vais m'arrêter là-dessus. Alors, il y a moins d'applaudissements que d'habitude, je peux vous le dire. Ça fait très, très bizarre, parce que d'ordinaire, cet amphi est plein. Et bon, bah là, on est 6. 7 avec moi. Alors, je ne sais pas si on fait aussi des séances de questions-réponses. Comment je fais ?
Ben, y a quelques questions que je...
Ah, c'est toi
que
qui fais.
Voilà, d'accord. C'est moi qui fais, c'est-à-dire que j'ai pioché quelques questions
d'accord.
parmi les... Non, je vais peut-être enlever mon masque parce que, pour qu'on m'entende. Je ne me mets pas trop en face de toi.
Oui, je vais essayer de continuer voilà, à parler dans l'axe.
Un peu par là. Voilà, il y a quelques questions, enfin, il y a beaucoup de questions dans le chat, donc j'en ai relevé quelques-unes, parce qu'on ne peut pas non plus faire une séance de questions qui dure une heure. Mais voilà, il y a des demandes d'explications. Alors, je les prends un petit peu dans le désordre. D'abord, la composition de l'univers, comment est-on arrivé à estimer les pourcentages matière ordinaire, matière noire et énergie noire ?
Alors, ça, c'est relativement simple.
Je commence par le plus facile.
On va commencer par le facile. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà. Cette courbe, quand on fait des modèles théoriques, la courbe qu'on va prédire va dépendre notamment du contenu de l'univers. Parce que finalement, ce qu'on observe là, simplement, c'est des amplitudes de fluctuations, des contrastes, en fonction de l'échelle. En fait, la physique de tout ça est assez simple. C'est de la physique d'ondes acoustiques qui se propagent dans un plasma. Et ce qui importe, c'est que le développement de ces ondes, que nous allons mesurer, dépend du milieu dans lequel elles se propagent. Et donc, vous changez la quantité de matière usuelle ou d'énergie sombre, etc. Et la courbe ressemble à quelque chose d'autre. Donc, c'est ce que j'avais essayé de vous dire là. Voilà, en variant un peu les paramètres qui sont là. Je ne sais pas si je vais arriver à... Voilà. Vous avez des exemples là de modifications de la géométrie, de certaines densités. Vous voyez que ces courbes-là sont très différentes. Et donc, c'est très simple. On se contente de regarder notre atlas d'empreintes digitales, entre guillemets, et de les comparer à celles de l'univers. Et c'est comme ça qu'on dit, ah, la seule description qui colle, c'est si l'abondance de tel élément ou tel élément est à 1% près telle valeur.
Merci. Donc ensuite, pour ce type d'analyse cosmologique, est-ce qu'on considère que le temps est linéaire ? Autrement dit, est-ce qu'un an à 400 000 ans après le Big Bang égale un an aujourd'hui ?
Ah, alors la question de la mesure du temps mériterait de longs développements, parce que pour parler de mesure du temps, il faut avoir des horloges. Donc il faut avoir des mécanismes physiques qui vont nous permettre de battre la mesure. Et donc on peut utiliser en fait différents types de mécanismes. Alors si par exemple on prend la température de l'univers à un moment donné comme indicateur, eh bien oui, c'est linéaire, c'est-à-dire que la température décroît inversement proportionnellement au taux d'expansion. Et donc, on peut utiliser ça, mais en revanche, si on prend le taux d'expansion et qu'on essaie de le relier à la au temps, ça va être une tension l'aire, un t puissance 1,5, enfin la racine du temps ou la puissance 2 tiers du temps. Donc en fait, ce n'est pas très bien défini comme question, c'est que ça va dépendre de quels outils vous allez utiliser pour battre la mesure. Voilà.
Alors ensuite...
Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est en fait ce qui va battre la mesure dans une large mesure pour nous, c'est l'échelle d'énergie. Parce que l'énergie est en fait l'énergie disponible, c'est ce qui gouverne en gros quels mécanismes sont en œuvre en fonction de l'époque. Donc en fait, notre mécanisme de datation le plus naturel, c'est celui de l'énergie.
D'accord. Alors ensuite, il y a deux questions sur Planck. Donc d'abord, comment expliquer les différences entre les mesures de Planck prises sur plusieurs années? Pourquoi les mesures aux différentes fréquences n'ont pas été reproduites d'une année sur l'autre?
Je pense qu'il y a dû y avoir une incompréhension parce que.
Je ne peux pas souvenir que tu aies dit ça exactement, mais.
Non, je ne pense pas avoir dit ça.
Il doit y avoir une.
Non, il y a.
Il y a aussi des questions de personnes qui n'ont pas compris quelque chose. Donc
non, mais
ça doit être ça.
Mais il n'y a pas de problème. D'abord, une carte du ciel comme celle-là, en fait, est le résultat de mesures accumulées sur toute la durée de la mission. Et donc, en fait, sous-jacente avec ça. On peut par exemple fabriquer la carte, disons, la carte à 143 gigahertz, celle qui est tout à fait au centre. Eh bien, cette carte-là, on peut la fabriquer avec les premières années de mission ou la deuxième année. On peut prendre différents morceaux de la mission et voir si on obtient la même carte. Parce que ça, c'est une des manières qu'on a précisément pour se dire on comprend la mesure. Et donc, un des outils qu'on a particulièrement utilisé, c'est de prendre justement la carte fabriquée avec des données d'un certain type, puis d'un autre type, de faire la différence et de se rendre compte que la différence, ça ressemble bien à du bruit et non pas à du signal. Et donc, en fait, on a au contraire une extraordinaire stabilité de nos mesures qui nous permettent en fait de vérifier que quand on revient l'année suivante, on mesure exactement la même chose. En revanche, quand on observe à différentes fréquences ou dans différentes couleurs, si vous imaginez, vous mettez un filtre, vous sélectionnez une certaine longueur d'onde ou une certaine fréquence, à ce moment-là, on observe différentes rendus du ciel qui ne font que traduire que le ciel n'est pas le même en fonction de la fréquence à laquelle on l'observe.
Oui, on le sait tous.
Oui, mais nous sommes des astronomes, donc.
Ben oui.
Non, mais le monde aussi est différent. Enfin, il n'y a pas besoin d'être astronome. Vous prenez un verre de couleur rouge, bleu, vert, et puis vous mettez devant vos lunettes et vous regardez. Vous voyez pas le monde de la même manière. Donc, on fait simplement la même chose, mais simplement dans l'infrarouge et le submillimétrique.
Voilà. Alors, il y a une autre question un peu aussi sur les mesures. Il y a quelqu'un qui écrit « À ce que je sache, les mesures sont très reproductibles à mieux de 1/10 millième près. » C'est même mieux que ça, il me semble. « Le satellite a-t-il eu l'occasion de pointer de nombreuses fois dans la même direction ?»
Oui. C'est un élément essentiel de contrôle de la compréhension de la mesure. C'est que cet objet-là, cette caméra, si vous voulez, est un objet extraordinairement complexe. Et donc, vous pouvez toujours vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a un petit peu de liquide dans tel réservoir qui passe dans un autre, qu'on a mis en route tel système, qu'on a tel refroidisseur, etc. Donc, on est terrorisé par l'idée qu'il y a des signaux parasites qui vont se mêler au signal astrophysique et nous induire en erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme outil contre ça? Eh bien, on refait la mesure dans des conditions différentes. Par exemple, on va faire la mesure, mais avec le satellite qui est orienté d'une manière différente par rapport au Soleil. Parce qu'au cours du parcours, on va pouvoir mesurer un point du ciel avec différentes orientations, à différents moments, etc. Et c'est justement ça qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est effet systématique, de qu'est-ce qui est le véritable signal. Et le véritable signal, c'est celui qui est toujours le même, quelle que soit la manière dont on prend la mesure.
Alors maintenant, au sujet des résultats de Planck, d'abord, il y a une question. Est-ce que les résultats de Planck sont compatibles avec la théorie de rebond de l'univers, Big Bounce?
Alors, il n'y a pas de théorie complète de grand rebond qui permette, de manière... Ou plus exactement, on arrive à plus correctement... On peut parfaitement décrire les résultats de Planck avec un certain nombre de ces théories-là, mais avec des paramètres essentiellement ajustables et qui n'étaient pas vraiment de l'ordre de la prédiction. C'était plutôt de l'ordre de la post-diction. Et donc, c'est un peu moins... je cherche mes mots... convaincant qu'une théorie développée dans les années 80 qui fait tout un tas de prédictions très spécifiques du genre... La géométrie spatiale doit être plate, les fluctuations doivent être enfin, caractérisé par un terme que les mathématiciens et nous-mêmes nous utilisons qui s'appelle gaussien. On doit aussi mesurer tout un ensemble de choses. Cette petite variation de l'amplitude des fluctuations en fonction de l'échelle, tout ça, ce sont des prédictions génériques de ce type d'inflation, de ce type de modèle qui ont été faites bien avant les mesures. Et à l'époque, il y avait une deuxième type de théorie, dont j'étais un des proposants, qui était sur la base de cordes cosmiques, qui aboutissait à des prédictions différentes et que les mesures ont permis d'exclure. Donc on n'est pas dans le même statut, on ne peut pas exclure, je ne peux certainement pas exclure qu'un modèle de Big Bounce puisse un jour être une réinterpréter les mesures d'une manière différente sur les parties les plus primordiales. Je ne peux pas l'exclure. Simplement, pour le moment, c'est de la post-diction, et c'est toujours un peu moins fort que la prédiction.
Alors ensuite, il y a une question un peu plus physique, enfin... Non, j'exagère, on fait toujours de la physique, mais pourquoi est-ce que cette variation infinitésimale de température, donc le fond diffus cosmologique, ne peut pas être interprétée comme la résultante de la chaleur émise par les étoiles actuelles?
Ah, alors, il y a eu beaucoup de modèles qui ont cherché à décrire, disons, le modèle cosmologique. Et en fait, ce n'est pas si facile que ça de décrire. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la physique, mais en gros, le modèle auquel on aboutit, c'est que ceci est à l'origine des étoiles, et c'est plusieurs centaines de millions avant la première étoile. Maintenant, sur le détail des inférences, je ne vais pas rentrer maintenant. Ou alors là, on fait un cours de DEA, là, c'est... Oui. Mais nous avons eu, enfin, justement, je vais revenir plus sur le cas des modèles. Pendant très longtemps, on a eu d'autres types de modèles que ceux dits de modèles de Big Bang Show, et qui étaient à un moment donné une parfaite description des choses jusqu'à ce que les données observationnelles soient suffisantes pour les exclure. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a largement de quoi exclure l'idée que ce soit les étoiles qui soient la source des fluctuations du corps noir cosmologique, qui par ailleurs a une courbe de distribution d'énergie qui est parfaitement décrite par une loi de Planck, etc. etc. Donc voilà, je veux dire, c'est simplement qu'on est assez certain que ce n'est pas le cas. Bon, okay. Mais c'est un peu un argument d'autorité, je le reconnais.
Non, mais...
Je ne me sens pas de rentrer dans un cours... Sur le sujet.
Non, il est un peu tard. On prend une dernière question, peut-être. Alors, pourquoi est-on surpris que deux zones distantes soient à la même température?
C'est une bonne question.
Pourquoi aurait-il été nécessaire qu'ils puissent communiquer?
Alors, c'est une excellente question, qui est en fait une des motivations initiales pour la théorie de l'inflation. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà lu, qui pose cette question-là. On peut plutôt se poser la question dans le sens suivant. Comment se fait-il que dans un modèle où des morceaux d'univers qui ne se sont jamais parlé, n'ont jamais été en contact causal l'un avec l'autre, aient exactement la même température? Alors vous avez une réponse qui est facile, qui est l'équivalent de Fiat Lux. Eh bien, il y a une puissance supérieure, il y a ce que vous voulez, qui a mis l'univers dans cet état-là. Et à faire en sorte que des endroits qui n'ont jamais pu se causer, ils sont établis, fiat, comme ça. Alors ça, on peut toujours. On peut aussi dire, les grumeaux primordiaux, non, ce n'est pas l'inflation. Il y a un petit génie qui les a peints à ce moment-là. On peut toujours. Mais justement, d'une certaine manière, l'ambition du cosmologue, ça va être de dire, oui, mais... Peut-être qu'en fait, tout ceci est décrivable par les lois de la nature, celles qui fonctionnent aussi bien pour décrire ce qui se passe dans cet amphithéâtre qu'ailleurs. Et la chose totalement incroyable, c'est que cette ambition qui peut paraître démesurée rencontre un succès absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive finalement avec des choses relativement économiques, deux grandes lois de la physique qui décrivent tout le reste de ce qu'on connaît autour de nous, quelques hypothèses simples, on aboutit à faire des prédictions extraordinairement précises. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'on a envie de savoir. Donc on peut toujours revenir à l'hypothèse comme quoi ça a été mis comme ça, soit on cherche une explication physique. Et alors du coup, si on cherche une explication physique, on se dit, Nom d'une pipe. Comment se fait-il que des morceaux d'univers qui n'ont jamais été en contact puissent avoir l'équivalent d'un équilibre thermique entre eux? La réponse, c'est qu'en fait, ils ont été en contact. Et que, simplement, il faut imaginer que quand on part en arrière, quand on remonte l'histoire du temps, ce n'est pas toujours la même chose qu'on observe. Il y a une phase particulière qui s'appelle cette phase d'inflation, qui permet justement de rendre en contact causal différents bouts de l'univers. Donc en fait, ce que nous observons aujourd'hui, tout notre univers observable, vient en fait d'un morceau d'univers qui était causalement connecté au moment de l'inflation. Donc en fait, c'est pour résoudre en partie ce problème-là que le concept d'inflation a été introduit. Mais après, en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont superposées. Et la grande merveille, d'une certaine manière, c'était de dire « Ah, mais naturellement, ça tombe du camion. Les fluctuations primordiales sont là. On n'a rien besoin de faire. On est capable de générer tout l'univers, au moins à grande échelle, hein, bien sûr, qui va sortir de là. » Ça a été une... Et donc après, on a été dit « Est-ce que maintenant, on peut le vérifier ?» Chose que nous avons maintenant fait.
Moi, je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Et puis, j'espère que tu reviendras faire une conférence du mardi sans attendre, combien, là... 17 ans, parce que dans 17 ans,
dans
on sera
17
peut-être
ans,
un
ça
petit
va
peu
commencer...
vieux
oh,
tous les
bah,
deux.
Mais
bon, tout est possible.
J'aurai moins de 80.